RMC. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Bonjour à tous. C'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Vous connaissez le générique, vous connaissez l'horaire. Donc vous savez que vous allez pouvoir intervenir au 32-16 et discuter, débattre avec les GG aujourd'hui. Bruno Poncet, le cheminot, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes avec Marianne Soubré, avocate. Bonjour Marianne.
Bonjour à tous.
Stéphane Manigold, restaurateur et de la partie aussi aujourd'hui. Bonjour Stéphane.
Bonjour Alain, bonjour les GG et bonjour à tous les vacanciers qui plient bagages, qui sont sur la route certainement pour d'autres
ouais,
et
va
qui
commencer ce week-end,
vont travailler dès lundi.
Après, il y a ceux qui aiment bien partir en décalé et profiter des 15 jours qui suivent le 15 août, tu sais, en disant il y a beaucoup moins de monde,
moins d'orage,
et puis j'ai moins de trafic aussi, ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs de partir à ce moment-là quand tu le peux. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Tout à l'heure à 11h, on reparlera de ce phénomène mondial aujourd'hui qui a été mis en place par les réseaux sociaux, c'est-à-dire regarder le trajet des avions, ou plutôt regarder le trajet des jets privés, des milliardaires et des stars, pour voir leur empreinte carbone et ensuite balancer ça sur les réseaux sociaux en disant « Regardez, il a fait 200 km en jet privé. » Alors, est-ce qu'effectivement c'est bien, c'est pour la bonne cause et ça responsabilisera tout le monde, ou c'est de la traque anti-riche? Surtout pour pointer du doigt les riches. Ce sera notre GG 7 et match. On en parlera tout à l'heure.
Grand moment de solitude à partir de 11h.
Je le sens. À 10h, 520 000 démissions par trimestre en France. Le phénomène de la grande démission de ces salariés qui envoient tout balader pour se remettre en cause est en train de s'installer dans le pays. La grande démission, peut-être y avez-vous succombé, peut-être l'avez-vous pratiqué pour vous. La grande démission, est-ce que c'est un choix égoïste? Là encore, 32-16 pour en parler avec les GG. Premier sujet de discussion, vous imaginez bien qu'on va revenir sur ce qui s'est passé en Corse toute la journée d'hier, surtout le matin. 5 morts, une dizaine de blessés, peut-être des disparus, de gros dégâts. Y a-t-il eu défaillance de Météo France? 32-16 pour en parler avec les GG et témoigner si vous êtes sur l'île.
Le ministère de l'Intérieur et notamment la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises entreprend un certain nombre de travaux d'évacuation lorsque nous avons des alertes qui nous permettent de faire ces évacuations. Manifestement, il était très improbable que le phénomène météorologique touche cette partie de la Corse dans des conditions de telle violence et qu'il était très difficilement prévisible. Météo France avait évoqué des vents qui n'atteignaient pas les pointes de plus de 200 km à l'heure dans certains endroits qui ont fait naître les drames que nous connaissons.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui annonçait donc l'état de catastrophe naturelle. En fait, les préfectures avaient été prévenues dès mercredi midi. Si vous refaites la chronologie, ça a frappé fort jeudi matin. Donc c'était 24 heures avant. Préfecture prévenue de l'arrivée d'un possible épisode avec, comme on dit, des orages violents. La vigilance est passée à l'orange. Mais quand le monstre nuageux a touché la côte, ce n'est pas passé au rouge. En fait, ce qu'on dit du côté de Météo France, c'est nous n'avions pas réellement assez d'éléments rationnels pour dire que le système orageux méritait de passer en vigilance rouge. Ah bon? Peut-être que dans ces cas-là, tu ouvres la fenêtre, tu regardes, tu dis, nom de Zeus, tu vois, il y a un monstre qui arrive, là, faut taper. Mais en fait, il se base sur des calculs, c'est-à-dire que les vigilances répondent à des calculs, à des statistiques, en croisant des données, et là tu dis on est dans le cadre de vigilance de telle ou telle couleur. Enfin quand même, y a-t-il eu défaillance de Météo France? 32-16 pour en parler avec les GG. Marianne?
Oui, alors moi je suis pas du tout ni anti-science ni anti-statistique, mais en fait ce qui explique en fait l'absence d'alerte, c'est qu'en réalité dans les modélisations qui ont été faites, il y en avait qu'une qui aboutissait en fait à cette catastrophe. Et donc on s'est dit statistiquement, si on n'a qu'une seule modélisation, ben on va l'écarter parce que c'est les autres qui sont plus rassurantes que l'on va garder. Il y a ce point-là, c'est le premier des problèmes. Le deuxième problème, c'est qu'il y a eu énormément d'alertes qui ont été données par Météo France parce qu'il y a des gros problèmes climatiques cet été. Et donc ils ont fait beaucoup d'alertes orange. Et au bout d'un moment, plus personne n'écoute. Mais il est quand même avéré, de ce que j'en ai vu en tout cas, c'est que à partir de 6h du matin, puisque ça a frappé à 8h du matin, à partir de 6h du matin, on savait de façon sûre, en tout cas les météorologues normalement savaient de façon sûre, qu'il fallait passer en alerte rouge. Alors, peut-être que l'alerte a été donnée trop tard, peut-être qu'elle n'a pas été entendue, parce qu'en réalité, il y en a peut-être eu trop, des alertes, et on ne sait plus aujourd'hui ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais là où je te rejoins, Alain, c'est que auparavant, on avait comme météorologue le vieux monsieur, le vieux pêcheur, le vieil agriculteur. Non, mais
ça s'appelle le bon sens paysan.
Non, mais
en fait,
qui tout d'un coup disait, soit il regardait le ciel, soit il avait mal au dos, soit tu vois, parce que il y a des problèmes atmosphériques qui font que tout d'un coup tes rhumatismes se réveillent, etc. C'est idiot ce que je dis, mais à un moment, oubliez le bon sens paysan, le bon sens marin, parce que il y a pas meilleur connaisseur de la mer que le marin. L'oublier au profit des statistiques, ben ça nous amène là.
Stéphane Manigold.
Bon, déjà, j'ai une pensée à nos forces qui sont engagées en Corse. Une pensée évidemment à tous les habitants de cette belle île, les touristes et puis mes amis commerçants. Donc, c'est quand même une belle tragédie avec un gros raté météorologique. Tu le soulignais, Marianne.
En fait, un gros raté.
Ah ben, quand tu mets un niveau de vigilance orange et que tu as des morts derrière et quand on voit les images absolument chaotiques, catastrophiques, oui, un raté. Le bon sens paysan, c'est quoi? C'est aussi de voir, moi je suis pas météorologue, hein, mais on a tous constaté que ce soit dans les lacs ou dans les mers, voire les océans, des températures parfaitement élevées de la mer. La Méditerranée, quand elle a 29 degrés, et que dans les en altitude tu as des températures inférieures à 8 degrés, à un moment, je sais pas, enfin, moi, je suis petit fils de paysan,
masse d'air froid, masse d'air chaud,
voilà, c'est un moment, ça pète et il y a pas besoin, je pense, je crois que le côté scientifique doit être là pour apporter de la complémentarité au bon sens paysan, au bon sens marin, mais il ne doit pas être le seul indicateur. Et ce raté là il est violent, la preuve, il y a des morts, et puis il y a une forme de défiance, tu le disais tout à l'heure Alain, bah, au fond la météo, le matin, t'arrêtes de regarder ou d'écouter, tu ouvres tes fenêtres et puis tu regardes ce qui se passe. C'est ça aussi,
enfin, les gars, donc il y a une vraie France, défiance. Ils n'étaient pas sur place aussi, ils ne pouvaient pas ouvrir la fenêtre, c'est ça.
Non, mais t'as des relais aujourd'hui, oui. Enfin, je veux dire,
ça va. Oui, mais il y a des stations locales, si tu veux, et puis
il y a des capteurs.
T'as la sécurité civile, t'as aussi la météo marine, tu vois ce qui se passe. Sachant que quand tu déclenches l'alerte rouge, ou plutôt la vigilance rouge, c'est... Tu dois donner dans la foulée l'ordre, notamment au camping, de dire tout ce qui est en bâtiment ou en souple,
les tentes,
terminé, vous passez sur du dur. Or, on a vu ce qui s'est passé, malheureusement.
Il y a eu des morts dans les...
Il y a mort dans une jeune fille qui est de 13 ans, qui est morte dans un camping. Bruno Poncet.
Ben moi,
c'est un service public, hein, Météo France.
Ouais,
hein.
Ben, comme c'est un service public, rappelez-vous ce qui est passé il y a 5 ans. Ça a été un des services qui a été victime aussi de restrictions de personnel. Voilà, donc à un moment donné, on peut aujourd'hui taper sur le service public en lui-même, mais une fois que tu as retiré les effectifs et que tu marches un peu à la voile en te disant bon bah écoute, jusqu'ici tout va bien, ça s'appelle le risque calculé, ça. C'est dans tout le service public, c'est une gestion que fait depuis des années tous les gouvernements successifs, peu importe la couleur. C'est tant que ça se passe bien, ça va, et le jour que ça se passe mal, on répare, ça coûtera toujours moins cher que de la maintenance. Et là, on est en plein dedans, enfin. Macron, quand il est arrivé, malheureusement, c'est ça. Et quand il est arrivé, ça fait un des services publics qu'il a restreint en effectif. Et aujourd'hui, moi, je trouve que c'est quand même assez simple de toujours taper sur celui qui annonce, alors qu'en fin de compte, évidemment, et comme le dit Stéphane ou Marianne, je pense que tout le monde sur l'île a dû se poser la question de dire qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Ils ont commencé à voir arriver. Et si les gens d'eux-mêmes n'ont pas pris la décision de retirer, par exemple, les campings, les gens sous les arbres et tout, à un moment donné, on peut pas dire à Météo France c'est de votre faute, parce qu'il y a 3 semaines vous n'avez pas annoncé qu'il y aurait une tempête comme ça le 26 mars ou le 26 avril ou le 24 août, quoi. J'arrive, moi je peine à comprendre toujours à mettre la faute sur les autres. Et en plus de dire voilà, c'est encore un service public qui fonctionne pas. Bah non, à un moment donné, voilà.
C'est pas forcément la faute sur les autres. Moi, ce que je leur reproche peut-être, c'est justement une modélisation à l'extrême, c'est-à-dire qu'on est uniquement dans les maths,
la data.
Dans les ordinateurs surpuissants. Ils le disent d'ailleurs, on a des ordinateurs surpuissants, etc. Statistiquement, c'était pas possible. Et en plus, ils ont une marge d'erreur. Ils disent 17% de nos alertes rouges, en fait, ne sont pas fondées. Donc ils se sont dit bon, on va pas lancer la alerte rouge, puisqu'on a déjà fait des alertes qui finalement n'étaient pas suivies d'effet. Donc je pense que c'est plus... Alors, il y a peut-être un problème sous-effectif, hein, je ne connais pas suffisamment, peut-être, c'est possible. Mais j'ai l'impression que c'est plus avoir abandonné notre bon sens humain au profit de la machine. Et résultat, ça ne marche plus. Parce que la machine, elle ne regarde pas le ciel, quoi. Enfin,
J'ai un auditeur là qui m'envoie un message et c'est pas fini, hein. Il m'explique, il m'envoie un article de Marianne qui dit clairement depuis le 21 septembre 2020, pour aller dans ton sens Bruno, la coupe des effectifs menace le bon fonctionnement de Météo France, en plein dedans. Et tu as raison, je crois qu'il faut sortir effectivement, l'idée c'est pas de chercher des sanctions, de rechercher des coupables. Il faut apprendre à vivre avec que ce soit les sécheresses, la pluie, quand il y a la sécheresse, qu'il y a la pluie, on se plaint. Enfin, il faut apprendre à vivre avec, apprendre à mieux anticiper et
Attends,
puis que la population...
Mais on peut pas, enfin d'accord,
c'est
mais
normal, que nous on se tourne vers les experts.
Non, mais d'accord, mais tout au long de l'été, Météo France qui a prévu les épisodes de chaleur, qui nous a fait les vigilances canicules, c'est pas trompé. Voilà. Ils sont venus, donc là, c'est pas une question d'effectif ou pas, Bruno. Tu comprends? Mais là, c'était simplement un moment donné avec un phénomène qui est certes rare, mais que tu vois arriver, puisque le matin à 6 heures, t'es encore en vigilance orange et tu vois le truc grossir, à la limite, déclenche le rouge.
Oui. À 6 heures, moi, j'ai vu, il disait qu'il
pouvait faire un principe de précaution. Dire, écoutez, attention, l'orange, ça va frapper fort, d'orange, on passe au rouge, quitte à ce que derrière tu dises. Écoutez les gars, vous en avez peut-être un peu trop fait si c'était un cran en dessous. Parce que du coup, hier, on a demandé l'évacuation des campings dans l'après-midi, alors que l'épisode, on savait qu'il serait 20 ou 30% moins fort. Alors bon, c'était normal dans la foulée de le dire, mais c'était une erreur. C'était le matin qu'il fallait le faire, quitte à ce que ce soit... Et donc là, c'est pas un problème d'effectif, c'est un problème de prise de responsabilité. Alors peut-être de chaîne de commandement aussi. C'est-à-dire que au moment où on n'a pas encore fini les datas, l'analyse des données, c'est, tu sais, tu tournes, chef. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez fini les calculs, les gars? Non, pas encore. Bon, ben, on reste en orange. Pendant ça, les gens qui étaient sur les ports ou sur la côte occidentale du côté de Sagone, et on l'a vu dans des images, on a vu, tu vois, le nuage monstrueux arriver. Donc, je suis pas sûr que ce soit lié au manque de personnel.
Il y a pas que ça, mais qui peut prévoir aujourd'hui? Qui aurait pu prévoir des vents à 225 km/h? Enfin, c'est-à-dire que là, tu arrives dans le hors norme qui va devenir notre norme dans pas longtemps.
Malheureusement.
Donc, malheureusement, on est en plein dedans. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec des températures hors norme dans des endroits où des feux en Bretagne, des 40 degrés en Bretagne. Moi, j'ai des amis qui habitent à Morlaix. J'avais jamais vu ça de leur vie. Donc, il y a un vrai sujet. Donc, aujourd'hui, le hors norme est en train de devenir notre norme. Et donc, je pense réellement que, moi, je pense que les gens, ils ont dû se dire, bon, voilà, une tempête, on en a déjà eu quelques-unes à 120, 110. Et là, d'un seul coup, c'est le double.
Ouais.
Et moi, je pense réellement que, Météo France, peut-être qu'il y a une défaillance, mais parce que moi je pense réellement que c'est un service qu'on a asséché.
Non, mais il y a deux choses. Tu peux très bien avoir asséché un service et réfléchir aujourd'hui à la manière dont tu remets du personnel dans un service qui est essentiel vu les années qui vont venir. Et puis après, tu peux repenser aussi les process, la prise de responsabilité et la prise de décision et la chaîne de commandement.
Il va falloir vraiment s'habituer à, malheureusement, des températures qui vont monter à 50. On avait vu le rapporteur du GIEC il y a pas longtemps, il nous avait expliqué que de toute façon dans 10-15 ans ça sera 50 ans, 550 degrés l'été, ça sera comme ça, et certainement des tempêtes de cet auteur là donc malheureusement notre quotidien, il va falloir qu'on repense aussi peut-être à notre habitat, à notre façon de vivre.
Mais ça, c'est évident.
Et voilà, et puis peut-être
ça on le dit, je crois qu'il faut être plus dans l'anticipation et moins subir. Ce que tu dis, Alain, vigilance orange. La data, c'est une chose, et a priori, je connais un peu le sujet, mais rien ne remplacera que tu fasses de la data politique, rien ne va remplacer l'expertise d'un journaliste.
Exactement.
Tu peux avoir les plus belles datas du monde, le journaliste, il fait quand même la différence.
Je suis d'accord, mais sauf que les évacuations ou quoi que ce soit, si tu veux, pour les locaux, tout le monde est sur son portable à attendre la vigilance rouge. À partir du moment où il y a vigilance rouge, le préfet ou les campings disent attention, on nous demande d'évacuer.
Bien sûr.
Ou alors, de toi-même, tu dis j'évacue mon camping, je fais évacuer mon camping parce que ça va frapper fort.
Il y a un autre problème, c'est la prise de décision. C'est qu'en réalité, le préfet ou celui à Météo France qui va déclencher l'alerte rouge, avant de la déclencher, effectivement, il doit avoir la modélisation qui lui permet de le faire. C'est-à-dire que s'il le fait à l'instinct, on va lui dire, mais vous plaisantez. Prouvez-nous par les ordinateurs.
Je vais même rajouter, Marianne, je vais compléter ce que tu dis. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, si t'imagines le préfet, il prend une position de classer en vigilance rouge. Darmanin derrière, épisode Stade de France, il se passe rien. Enfin, pour le coup, là, il se passe rien. C'est une espèce de grippette, trois vents à 80 km/h. Mais c'est le lynchage politique.
Ouais,
donc, tu as une espèce aussi de peur. Non, mais attends, il faut aussi accepter. Il faut accepter l'erreur, mais l'erreur positive. L'erreur positive, c'est quoi? C'est dire, moi, par principe de précaution, je passe en vigilance rouge.
Voilà.
Rouge. Et il faut accepter. Mais là, est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les excités qu'on a sur les réseaux, les anti-tout,
fous,
certains
ça,
gros débiles. Attends,
voilà.
T'inquiète, tu vas les avoir
final,
bientôt sur. Tu vas les avoir sur les côtes, les excités des réseaux sociaux.
Crois-moi
qu'ils sont virulents.
Mais
tu dis, tu t'en fous. Non, parce que, regarde, le Stade de France, c'est typique. Quand Darmanin, c'est la non-action du préfet, c'est la non-prise de position de dire on s'oppose à ces voyous pour qu'ils ne pénètrent pas dans le stade. Donc quand tu prends une non-décision, tu te fais défoncer. Et quand t'en prends une, c'est pareil. Bah oui, mais
vas-y,
non,
c'est pas grave, Bruno.
Mais non, mais c'est pas. Enfin, le
facile.
facile.
Non, mais
c'est facile de compter les points après les matchs.
Non, mais c'est le fait que tu prennes des décisions, mais c'est déjà c'est ton rôle quand t'es en responsabilité. Moi, j'étais en responsabilité d'organisation. Tu prends des décisions, bah oui, évidemment, tu vas pas avoir 100% de gens d'accord avec toi. Mais c'est leur rôle. Moi, je trouve que le préfet, s'il ouvre sa fenêtre hier matin et qu'à 5h, il dit, c'est quand même pas terrible. Il dit, bah, je mets tout en zone rouge et j'envoie tout le monde.
Mais si tu te rends compte ce que c'est comme l'impact que ça a de positionner en zone rouge lorsque tu te trompes.
Mais c'est
les commerçants qui vont se plaindre. Mais vous m'avez fermé, les plagistes, etc. Attends, c'est pas simple comme décision.
Si ce matin t'as pas 5 morts, tu peux dire en faisant ça.
À la fin du match, c'est facile de commenter les buts et de savoir qui a marqué.
Aller vers plus de sécurité que moins de sécurité. C'est comme ça la gestion d'un monde, c'est ça.
On va continuer d'en discuter avec vous, bien sûr, au 32-16. La discussion est lancée avec Bruno Poncet, Marianne Soubré avec Stéphane Manigault. On sera rejoint dans un instant par le journaliste météo RMC et BFM TV Loïc Rivière, parce que 24 heures après on commence à avoir un petit peu plus de détails. Est-ce que Météo France est en défaillance sur ce coup-là, sur ce qui s'est passé en Corse? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules.
RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui le cheminot Bruno Poncet, Marianne Soubré, avocate, Stéphane Manigault, restaurateur. Y a-t-il eu défaillance de Météo France avec ce qui s'est passé en Corse? On va en parler dans un instant avec Loïc Rivière qui nous a rejoint, journaliste météo sur RMC et BFM TV. Temps de passer par le Vaucluse, retrouver un fidèle des GG, c'est Nicolas qui est paysagiste. Bonjour Nicolas.
Bonjour les GG.
Bonjour, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas. Vous Nicolas qui êtes tout le temps dehors aussi à regarder le ciel? Est-ce qu'il y a eu défaillance de Météo France?
Moi, je trouve qu'il y a eu défaillance de Météo France. Je pense que... j'ai connu l'épisode 99, j'étais dans la Marne quand il y a eu les grosses tempêtes. Ouais. Et on avait le même discours. C'est-à-dire que oui, mais on peut pas savoir, c'est compliqué. Ouais. C'est passé 22 ans depuis, et on n'a pas retenu les leçons. Les leçons, c'est-à-dire que pour envoyer les couleurs vertes, orange, rouge, c'est pas une histoire on va pas embêter les gens. C'est une histoire de protéger les gens. Ces couleurs-là, ça sert à protéger. Donc, comment vous expliquez, moi, que mercredi soir, je regarde mon téléphone, je regarde un peu ce qui se passe avec mes trois applications de météo, et je me dis, waouh, la Méditerranée, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, elle est à 29, il y a 8-10 degrés qui arrivent dessus, ça va péter. Mmh. Et on le sait, c'est pas un épisode Cévenol en Corse, mais les épisodes Cévenol, c'est ça. On sait que à cette époque de l'année, ça peut être ultra violent. Mmh, mmh. Donc, les préfets Darmanin, au lieu de se dire, oh là là, si j'envoie le rouge trop vite, je vais me faire taper dessus. Non, il faut envoyer le rouge, parce qu'aujourd'hui, il y a des morts. Et il y a des personnes qui sont sur leur bateau de tourisme, et on ne sait pas où est-ce qu'ils sont.
Ouais. Oui, on est à la recherche des disparus. Aujourd'hui, il y a des opérations en mer qui continuent.
C'est de l'anticipation. C'est de l'anticipation. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que la météo, ça devient... Je reviens encore avec 99, on a eu des leçons, ça, il y a 22 ans. Aujourd'hui, quand on annonce un gros épisode pluvieux, la météo, il nous dit « Oh, il est tombé l'équivalent de deux mois de pluie ». Mais ça ne veut rien dire. Mm. Il faut dire aux gens aussi, il est tombé 50 mm, 100 mm, ou parler en litres. Mais tombé en mois de pluie, juillet, août, et on n'est rien tombé. Donc,
surtout, Nicolas, vous avez raison que Météo France est quand même fiable dans tous ces bulletins qu'elle envoie à longueur de journée avec ses vigilances jaunes, oranges. Et puis là, la manière dont on nous a fait suivre tout l'été la canicule. Et on nous annonce d'ailleurs de nouveau des épisodes de forte chaleur la semaine prochaine. Et là, on sait les anticiper. Et nous-mêmes, on s'adapte d'ailleurs pour la semaine prochaine. On commence à se mettre en tête ce qu'il va y avoir à faire. Or là, entre 6h le matin et 8h30 le matin, Loïc Rivière, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'est pas passé de orange à rouge, quoi, en fait?
Il y a eu effectivement un temps de latence. Hier, on parlait de la tempête de 99. Il faut noter que c'est après cette tempête de 99, cette tempête d'ailleurs, c'est après qu'on a lancé les vigilances, justement pour attirer l'attention sur ce type d'événement. Donc ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on retrouve ces vigilances régulièrement. Il y a eu plus de 1000 événements notés sur cette vingtaine d'années, ça en fait 52 par an. Alors on peut se dire parfois qu'il y a trop de vigilance, parfois qu'il n'y en a pas assez. Là, effectivement, c'est arrivé beaucoup trop tardivement. Quand j'ai pris l'antenne à 5h du matin hier, effectivement, on commençait à regarder très sérieusement ce qui se passait en Méditerranée avec cette ligne orageuse qui remontait des Baléares en direction du golfe de Gênes. Le problème, c'est que la plupart des modèles météo la voyaient passer entre la Corse et le continent. Il y avait effectivement le modèle de Météo France, là, pour le coup, le modèle Arome, qui, lui, voyait cette ligne orageuse glisser en direction de la Corse, mais il a tendance souvent à surestimer les vents. Du coup, les prévisionnistes essayent de statuer à ce moment-là. Ça dure une partie de la matinée.
Quoi, en fait, c'est ça.
Et c'est au dernier moment qu'on voit se former les orages les plus violents. C'est là qu'on commence à distinguer les rafales de vent sur les différents radars. Et c'est là qu'on se dit, on va lancer l'alerte. Il est presque 8 heures à ce moment-là. Alors, il y a un premier tweet de Météo France qui est tout à fait informel à 8h05. L'alerte orange, elle, est lancée à 8h35, donc il y a une bonne demi-heure de décalage. Pendant cette demi-heure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se consulte entre chefs prévis locaux, chefs prévisionnistes nationaux et avec les préfectures également de la Haute-Corse et de la Corse du Sud.
Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs.
Énormément, certainement trop.
Il y a aussi une longue chaîne de discussion avant d'appuyer sur le bouton et de dire « on y va ». Quoi.
C'est ça. Sinon, on appuie sur le bouton tous les jours à chaque fois qu'on voit quelque chose se passer au large. Alors, plus précisément... ce qui s'est passé là sur cet événement, c'est qu'on a un chef prévisionniste local qui n'est pas basé en Corse, mais à Aix-en-Provence. Donc depuis Aix-en-Provence, il est effectivement délicat de voir arriver cet arcus, cet immense nuage d'orage, comme ont pu le voir arriver les Corses et les touristes qui étaient sur place.
C'est Jean-Jacques qui est à Bastia qui va en parler avec nous, il nous appelle au 32-16. Bonjour Jean-Jacques.
Oui, bonjour. Bonjour tout le
monde. Bonjour Jean-Jacques.
C'est Météo France qu'il faut pointer du doigt. Il y a une défaillance, Jean-Jacques?
Pas du tout. Pas du tout, pour la simple et bonne raison, vous avez en plus accès à ces gens-là, ce sont vos collègues, il y en a sur BFM, partout. Eux, quand ils prévoient ce genre de phénomène, ils sont obligés d'envisager toutes les possibilités, d'accord ?
Oui.
De la tempête, entre guillemets, la plus calme, la plus puissante. C'est la préfecture derrière, là, sur le coup, qui n'a pas suivi. C'est la préfecture. J'entendais hier une de vos collègues sur les plateaux de BFM, le matin, j'ai pas son nom, je suis désolé, qui disait que à partir de jaune, il faut être vigilant. C'est pareil, oui. Ça peut basculer à l'orange. Non, pour la simple et bonne raison qu'à partir d'orange, en préfectoral, on envisage les évacuations de tout ce qui est non solide, non fixé au sol, c'est-à-dire les campings. On empêche peut-être les randonneurs de prendre la montagne. Mmh. On oblige les bateaux à rentrer au port. Vous voyez, et ça, vous, moi, le citoyen lambda, un mec qui a un camping de 2000 personnes, il peut pas décider tout seul en jaune d'évacuer. Il faut que ce soit en orange et qu'il y ait un gymnase ou un collège mis à disposition. Il faut que ça vienne de la préfecture. Il faut que ce soit un nord.
L'évacuation, c'est à partir de rouge, les évacuations.
C'est envisagé en orange, je vous assure.
Envisagé.
Pour les constructions non solides.
C'est vrai.
Je répète. Caravanes, mobilhomes. Eh bien oui, mais hier soir, on a évacué. Je vous assure qu'on le savait tous ici. Il a plus de gouttelettes. C'est avant-hier qu'il fallait évacuer.
Oui, vous avez raison.
Les 5 morts, ils n'y étaient pas, vous comprenez?
Oui, puis on cherche encore des...
Dans les campings là toute la nuit, mais bon, il a plus de gouttes. Il a pris un arrosoir, c'était pas hier qu'il fallait évacuer. Et je suis désolé, la tempête, là, le phénomène, bon déjà, on parle d'orage, pardon, nous on est sur place, orage. Il n'y a pas eu tant d'activité électrique que ça, j'ai l'impression qu'on se voit un petit peu la face là. C'était des vents à 220 km/h, à rafale puissante, et si on est de l'autre côté de la mer, on appelle ça un ouragan en vrai,
Mais ce que vous rappelez, c'est que effectivement, il y a toujours des recherches qui sont en mer et plus les gens qui sont partis sur le GR20. Il y a des recherches sur le GR20 puisque de toute façon.
Dites-vous, vous voyez, tout ça, c'est des choses qui peuvent être évitées. Voilà. Si on déclenche avant, nous on dit jaune. Jaune, bon, on a la vision de la Corse en juillet, août, c'est super, on va à la plage, c'est magnifique. Jaune, nous on est habitués, on prête même pas attention, hein.
Ouais.
On est quand même une île montagne, je veux dire, les tempêtes jaunes. Avant-hier, on nous annonce des vents à 70 km/h. Ouais. 70 km/h, les avions décollent. C'est rien, on n'a même pas tendu l'oreille à jaune.
Vous avez raison. Surtout qu'en plus, le jaune et l'orange, enfin surtout le jaune, on nous en colle toute l'année.
On en a quasiment tous les jours en réalité. Voilà.
Donc on ne sait même plus à quoi ça sert. Difficile
d'attirer l'attention département par département en fonction de ces vigilances jaunes.
Moi, je pense qu'il y a un dysfonctionnement vraiment à préfectoral. Voilà, je le redis haut et fort.
Je comprends bien.
On ne peut rien faire sur place. Je veux dire, le citoyen, je vous le répète, vous, moi, n'importe qui, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas prendre de sa propre initiative la décision d'évacuer un camping ou de fermer ceci ou de fermer cela.
Pour aller où en plus? Si vous n'avez pas un gymnase, ça ne sert à rien.
Oui, parce que
on parle de la soudaineté de la tempête. Excusez-moi, j'insiste un peu. Oui, la soudaineté à l'instant T quand elle est arrivée. Mais vous avez certainement dû voir toutes ces images satellites. Non. On la voit arriver, on ne voyait plus un brin de mer. Il y a la Méditerranée qui on dirait une tornade.
Oui. Le ciel et la mer se confondent dans ces cas-là. On ne sait plus, où c'est, effectivement. Jean-Jacques, merci d'avoir été avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. Du coup, Météo France, on va réfléchir. on se dit qu'il y a peut-être des process à revoir, surtout si le climat se dérègle, comme le disait Bruno, si ça se dérègle complètement, il faut peut-être revoir les systèmes d'alerte, les systèmes de vigilance, affiner, avoir des prises de décision plus rapides.
Peut-être mettre quelqu'un en Corse maintenant pour surveiller la Corse, ouais. Et pas Aix-en-Provence.
Bah, c'est une question d'effectifs, de moyens. Alors technique d'un côté, de moyens humains de l'autre.
C'est moyens humains, clairement.
Si on n'a pas le maillage avec suffisamment d'effectifs sur place, effectivement, on a du mal à être réactif. Il faut évidemment accélérer la procédure, ça c'est certain.
Ça veut dire que le gars d'Aix-en-Provence, quand il voit en fait qu'il y a un problème,
c'est
etc.,
tranche,
il n'a pas de moyen d'appeler quelqu'un en Corse pour lui dire est-ce que tu peux regarder.
Alors il y a toujours moyen d'aller appeler quelqu'un en Corse.
Non, mais
difficile quand on n'est pas sur place de sentir ce qui est en train de se passer.
Oui, non, mais il n'y a pas de possibilité d'avoir un relais sur. Il n'y a pas de relais sur place.
Non, pas de relais sur.
Mais non, mais c'est absolument anormal.
Il y a des stations. On a quand même des stations. On a quand même des relevés.
Le volume de touristes qui viennent en Corse dans cette île de beauté et qu'on n'ait pas un relais, sachant que les catastrophes climatiques vont être de plus en plus présentes. On l'observe, d'ailleurs, les États-Unis ou le Japon qui sont constamment frappés par des catastrophes. On peut pas considérer que eux, pour le coup, ne sont pas dotés d'experts sur ces sujets. Je crois qu'il faut qu'on ait tous un peu d'humilité et puis il faut qu'on sorte en France, et je le pense sincèrement, de cette judiciarisation à tout prix du politique ou du préfet lorsqu'il prend une décision. C'est aussi là, on est gouverné aujourd'hui par la trouille du pénal, par la trouille de la mise en cause personnelle d'un ministre ou d'un préfet. Il faut vraiment qu'on sorte de cette judiciarisation pour qu'on puisse enfin paisiblement pouvoir prendre des décisions. Et je suis convaincu que le préfet, quand il a la trouille de basculer et de passer pour un idiot et de se faire débarquer.
Bruno.
Mais si, c'est ça la vérité.
Non, mais il est en responsabilité. Moi, je suis désolé. Il est en responsabilité. Donc, son rôle, c'est de prendre des décisions. Alors, il s'appuie sur
Météo France. Si toi, t'annules un train et que tu te trompes, tu auras la foudre des usagers.
Si j'annule un train pour des raisons de sécurité, moi, je trouve qu'il n'y a même pas à discuter. Sécurité, le danger, c'est le premier truc auquel tu dois regarder. Le préfet, le préfet, normalement, il habite sur place. J'espère qu'il n'est pas avec son prononce non plus. Hein. Donc, lui, il habite sur place. Si lui, il sent le truc, à un moment donné, il doit dire. Ben voilà. Et même si après, derrière, il ne se passe rien, mais au moins, la prévention doit être au-dessus de tout. Et moi, je trouve réellement que, et Jean-Jacques l'a dit, c'est pas Météo France, c'est un des outils du préfet pour prendre sa décision. Il en a d'autres. Il peut très bien aller voir son voisin qui a mal au dos et qui sent que la pluie va arriver, hein, s'il veut.
Mais il doit prendre des décisions. Stéphane a raison. En fait, le problème, tu as raison moralement. Juridiquement, Stéphane a raison. C'est-à-dire que si le préfet, il dit « Mon petit voisin qui est sur sa canne, il avait ses rhumatismes et il m'a dit que c'était la tempête », on lui dit « Mais c'était ma gueule ».
On est au-delà de ça.
Non, mais
on est au-delà de ça parce que je comprends ce que tu veux dire.
T'as un seul prévisionniste qui...
Tu es obligé d'avoir un document écrit officiel qui te permet de prendre cette décision. C'est parapluie, bretelle, parachute, tout ce que tu veux. Et donc, effectivement, à force de vouloir se couvrir et à force de ne pas faire passer la sécurité avant tout, ben, on se retrouve avec des gens qui prennent pas de décision.
D'acceptabilité de la population. Je suis désolé, je l'ai vécu il y a une dizaine de jours. L'aéroport de Toulon, l'avion qui atterrit, s'est pris des oiseaux dans les réacteurs. Le commandant de bord vient nous indiquer qu'ils vont vérifier que l'appareil est en condition de repartir. Bah, une heure après, il annonce que le vol est annulé. Je peux te dire que les usagers... Il t'explique quand même que l'avion n'est pas en condition, tu vas t'écraser. Bah, t'as quand même des gens qui râlaient en disant, mais c'est pas normal, vous foutez de nous. T'es dans un cas concret, c'est-à-dire que le mec, il te dit clairement que l'avion, s'il décolle, tu vas mourir. Et t'as des gens qui ont trouvé le moyen de râler, de gueuler, je vais vous attaquer, je vais machin. Attends, la population, elle est aussi
insupportable.
Mais tu peux pas dire ça.
On va terminer avec Stéphane qui nous appelle de Lozère. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Quelle est votre opinion en ce qui concerne la Corse et Météo France alors?
Alors, pour moi, Météo France n'est pas du tout en cause dans cette histoire, dans la mesure où la météo est une prédiction basée sur des modèles sur le passé. Ce phénomène qui vient de frapper la Corse n'a jamais eu lieu. C'est à partir des observations qui ont été faites que l'on peut prévoir ce qui va se passer dans le futur. Moi, j'ai souvenir, ma compagne qui était vers Nîmes lors des inondations à Nîmes. Oui. Le matin, elle est partie en sandales, elle est partie en tenue d'été. On n'avait même pas annoncé de la pluie à ce moment-là. Et pourtant, voilà, il y a eu une trentaine de morts sur l'île.
Donc vous dites que ce n'est pas une science exacte, la météo.
Ah, bien sûr que non, ce n'est pas une science exacte.
C'est un fou d'humilité.
C'est basé sur des observations qui changent en plus, puisque le modèle, puisqu'on est en train d'observer un réchauffement climatique, un changement de la météo, les modèles que l'on connaît sont désuets.
Alors, surtout sur les orages. Là, c'est un vrai cauchemar pour les météorologues, en réalité. Là, on est sur des phénomènes qui sont assez localisés, qu'on voit se former au tout dernier moment, puisqu'on a de l'instabilité. C'est pas une perturbation qui est en train de circuler. Les ouragans, on les voit arriver très loin. Les orages, on les voit au dernier moment.
En revanche, la montagne, on peut considérer que c'est plutôt bien géré. On a rarement de cas de phénomènes climatiques en montagne qui est faux, quoi. Il y a peut-être plus de capteurs, plus d'effectifs, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est intéressant de comparer la montagne. La montagne, pour le coup, c'est plutôt bien géré.
Merci à Stéphane d'avoir conclu notre discussion. Merci Loïc Rivière d'être passé par les GG, les Grandes Gueules. On a posé la question, y a-t-il eu défaillance de Météo France? De ce que vous avez entendu, lu, vu, pour moi, vous êtes sur un non, il n'y a pas eu de défaillance, à un peu plus de 57% pour ceux qui ont suivi la discussion dans les GG. Dans un instant, avec Stéphane Manigold, avec Bruno Poncet et Marianne Soubré, on va s'intéresser à l'inquiétude qui gagne l'hôtellerie, la restauration, PGE, les trois lettres, ça vous dit quelque chose? Prêt garanti par l'État. C'était au moment du Covid, l'argent prêté par l'État pour garantir les activités, aider notamment l'hôtellerie et la restauration. Cet argent, il va falloir le rembourser. Et 25% des entreprises qui l'ont contracté pensent qu'elles n'y arriveront pas. Donc attention aux faillites en cascade. On en parle dans un instant.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Marianne Soubré, avocate, et Bruno Poncet, cheminot. Nous sommes avec Stéphane Manigold, qui est restaurateur. Tout à l'heure à 10h, venez parler de cette grande démission avec nous là. Le nombre de démissions qui a atteint un niveau historiquement haut, 520 000 démissions par trimestre en France, 470 000 démissions de CDI. Les Français, une partie des Français quittent leur job, passent à autre chose. Alors la grande démission, c'est aussi la grande désorganisation de l'économie. Peut-être que c'est des choix un peu égoïstes quand même. 32-16 pour venir en parler avec les GG tout à l'heure à partir de 10h. En attendant, on y va pour le monde de Macron.
RMC, les Grandes Gueules.
C'est avec ambition et bienveillance que je veux aborder les 5 années qui viennent.
Le monde de Macron.
On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais je ne mens pas sur la marchandise.
Vous savez qu'au moment du Covid, on a beaucoup parlé de cet acronyme PGE, prêt garanti par l'État. C'est l'État qui a donné de l'argent aux entreprises pour qu'elles arrivent, qui a prêté de l'argent, pardon, aux entreprises pour qu'elles arrivent à tenir pendant le Covid, puisque c'est l'État qui a décidé de fermer, de mettre un tour de clé à l'économie pendant les années, enfin 2020-2021. 25% des entreprises, en particulier dans l'hôtellerie et la restauration, qui ont contracté ce PGE, ne seraient pas en mesure de le rembourser. On n'y arrivera pas. Ce qu'elles disent, on a, malgré une bonne année 2022, on ne va pas arriver à rembourser ce qu'on nous a prêté. Il faut nous donner plus de temps. C'est ce que disent les entreprises. Sauf que du côté de Bercy, on dit, attendez, on a signé un deal, ça a été donnant-donnant, donc il n'y a pas de raison pour le moment d'aménager. Donc ça risque de poser un problème. Au moment où en plus, où l'économie risque de se gripper à la rentrée prochaine, ou même sur 2023, à cause peut-être de la récession, enfin plutôt à cause de l'inflation. Et de la récession, et puis du manque de matières premières et autres qui va se faire sentir, quoi. Et puis les coûts en énergie qui ont augmenté. Alors ça va être la grande catastrophe.
Non mais là Alain, tu mets la pièce sur un sujet qui m'exaspère depuis plus d'un an maintenant. Quand tu dis on nous a prêté, je rappelle que beaucoup de mes confrères ont fait un PGE, donc un prêt garanti par l'État, avec un flingue sur la tempe. Oui. C'est-à-dire qu'on nous a dit vous fermez, oui, et on va vous prêter de l'argent. Moi je suis très fier et honoré que la France ait protégé nos salariés, a donné 84% du salaire à rester à la maison. Moi je suis très fier de cette position, ce qui n'a pas été le cas en Italie ou en Espagne. Les salariés, on leur a pas dit vous allez chez CTLM ou chez Sofinco, vous faites un prêt, on va vous payer vos salaires et vous allez les rembourser. Moi je suis très en colère parce que depuis le début, on dit que cette situation elle va être compliquée. Alors oui, on est des chefs d'entreprise, un prêt ça se rembourse. On a cette valeur, oui, on nous a prêté de l'argent, on le rembourse. Mais ce qui est, je tiens à rappeler deux chiffres. Il y a près de 700 000 entreprises qui ont contracté un prêt garanti par l'État pour 143 milliards d'argent prêté. Je rappelle que nous sommes 220 000 dans la restauration et que le PGE sur les 143 milliards, la restauration, ce n'est que
20 milliards. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont contracté ces prêts, les cabinets d'avocats ont été éligibles, les médias ont été éligibles. Et moi, je suis très fier que ces entreprises n'ont pas été impactées en réalité par la crise.
Que doit faire l'État alors ?
Alors, il y a une règle qui est très
25%
simple.
25% des boîtes passent cul par-dessus tête.
Ah non, mais tu...
Il faut renégocier
non,
le...
Non, mais moi, j'ai souvenir, et je l'ai tweeté, d'un débat du second tour où le candidat Macron, maintenant président, face à Marine Le Pen, qui avait pour le coup bien travaillé son dossier. Ce qui a le don d'ailleurs de m'exaspérer, puisque c'est vrai que dans le débat du second tour, Marine Le Pen, ce qu'elle a dit, c'est juste. Ça a été entendu par la profession. Et pourtant, on a appelé à faire barrage à l'extrême droite. Alors moi, je le dis très solennellement, Emmanuel Macron, si en 2027, Marine Le Pen est au pouvoir, il portera une responsabilité. Mais je reviens sur les PGE. Qu'a dit Emmanuel Macron ? Il a balayé le sujet. On les allongera. On réglera le problème. Eh bien, Emmanuel Macron, il est président de la République maintenant, il est aux commandes, eh bien, il est temps qu'il allonge ses PGE sur 10 ans. 4 ans, c'est intenable.
D'accord,
la ruralité
une renégociation,
gueule, et ils ont raison.
Une renégociation sur 10 ans du remboursement des prêts.
10 ans pour tout le monde, automatique. Parce que la réponse qui consiste à dire de certains politiques
sinon ça va être
de nous expliquer
«
Mais oui, mais 10 ans, vous y avez droit ». C'est vrai, quand t'es en difficulté, on peut t'étaler sur 10 ans, par contre tu empruntes plus, tu es fiché comme mauvais payeur, tu as accès à plus rien. 10 ans pour tout le monde, sans inscription au fichier bancaire des mauvais payeurs, ça c'est une promesse que le candidat Emmanuel Macron a fait. Nous avons entendu cette promesse, nous l'avons soutenue, il est temps qu'il tienne ses promesses sur ce sujet.
10 ans et pas 4 ans. Quoi.
Ah non, pas 4 ans.
Marianne. Oui, non mais ça s'appelle un prêt garanti par l'État. Donc là, moi, je la vois pas la garantie de l'État. C'est là où il y a un problème, puisque effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. À un moment, si on nous dit que l'État va garantir, on peut pas aussi mettre le couteau sous la gorge aux gens en disant il faut que vous remboursiez, il faut que l'État fasse un geste. Et ça peut être l'étalement, ça peut être effectivement passer de 4 ans à 10 ans. Pourquoi
mais c'est
pas
un bol d'air extraordinaire.
Oui, absolument. Mais je suis d'accord avec toi. Mais tu peux pas à la fois dire c'est un prêt garanti par l'État et n'offrir aucune garantie au final, parce que là, la garantie de l'État, elle y est pas.
Tu sais combien de temps, sur quel délai l'État français a emprunté pour nous prêter cet argent? 20 ans. Si l'État français est en capacité de rembourser sur 20 ans, comment tu veux qu'une entreprise rembourse la même chose sur 4 ans? Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'être même quelqu'un qui a fait l'ENA est capable de comprendre ça. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. T'as l'État qui emprunte à taux négatif, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que l'État a gagné de l'argent à nous prêter de l'argent. Ça, c'est très bien. Mais là, aujourd'hui, on nous dit, oh, vous savez, les banquiers, les pauvres, on va pas les ressolliciter pour étaler la dette. Mais bordel, en 2008-2009, quand il y a eu la crise financière, c'est les citoyens français qui ont sauvé les banques. Les 300 milliards qui ont été injectés par Nicolas Sarkozy pour sauver les banques. Et moi, je suis très fier que les banques aient été sauvées en 2008-2009. Pourtant, elles ont commis des fautes. Elles ont fait des placements.
Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait.
On a fait aucune vente. Pour lutter contre la pandémie, vous devez fermer. C'est insupportable.
Bruno Poncet.
Non, mais c'est ce que Stéphane dit. On les a forcés à fermer. Là, ça fait quasiment 2 ans. Ils commencent juste un peu à sortir tête de l'eau actuellement. Et on leur demande, enfin, on leur dit que dans 2 ans, c'est pas possible.
Mais c'est énorme.
Stéphane a raison. Je pense que l'étalement, et en plus, si l'État a emprunté sur 20 ans et qu'il demande sur 4 ans, là, c'est quand même honteux. Faut être sérieux. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, à un moment donné, éviter de, on n'arrête pas de dire qu'ils peinent à recruter, que, on est content
les salaires.
Que l'année 2022, ça va être une super année pour le tourisme. Et les mecs, derrière, on leur demande de rembourser quelque chose alors qu'ils ont vécu 2 ans, quasiment en mort cérébrale, la plupart des commerces. Le nombre de commerces, alors, hôtellerie, restauration, encore plus, qui ont été obligés de fermer, qui ont rouvert. Enfin, ça fait même pas un an qu'ils ont rouvert. On a encore eu quand même un épisode de confinement, en début d'année où, tout ce qui était salle de concert, salle de spectacle, t'avais pas le droit d'y aller, c'était fermé. Enfin, il y a quand même une catastrophe qui fait qu'aujourd'hui, mais moi, je comprends pas que l'État, d'eux-mêmes, dise, bon, bah, écoutez, évidemment, vous remontez juste, on va quand même pas vous venir vous assassiner tout de suite, on va attendre un peu et on va.
Tu avais eu un PGE, toi, autant, profession libérale?
Oui, on l'a pris, oui.
Et tu penses que tu peux arriver à le rembourser dans les 4 ans ou pas?
Ah, non, on a commencé, bien sûr.
Mais
oui.
Ils n'ont pas fermé les avocats.
Oui, alors
ils ont
attention.
Travaillé.
Alors, je suis d'accord avec toi, sauf que on a été extrêmement impacté quand même.
Bien sûr,
je veux dire, mais c'est vrai qu'on n'a pas fermé, mais on recevait pas de public. Au final, si on a fermé parce qu'on recevait personne. Et donc, quand tu reçois pas tes clients, puis ça dépend de ton activité. Et dans mon activité, par exemple, un tiers de mon activité, si tu veux, elle était morte. Voilà. Donc, si tu veux, il y a donc, on a tous été plus ou moins. Oui. On a eu beaucoup de pertes, etc. Mais on s'en est sorti. On a pris un PGE qu'on a commencé à rembourser, mais on n'est pas du tout du tout dans la configuration
de l'hôtellerie-restauration. Pour te donner ça, toi, tu es personne.
Et nous, si tu veux, on payait notre loyer. La différence avec les restaurateurs, c'est qu'ils ne pouvaient pas payer leur loyer puisqu'ils n'avaient pas de revenus.
Bien sûr, mais est-ce que ça ne peut pas être du cas par cas? C'est-à-dire, c'est pas pour l'ensemble de la profession, tu vois, qu'il faut renégocier sur 10 ans. Parce que ceux qui ont les reins solides, ils peuvent rembourser. Et à ce moment-là, il n'y a qu'à regarder, tu sais, comme pour tout le monde. Tu vas avec ton dossier, tu vas voir l'État ou un représentant de l'État, tu dis, écoutez, moi, voyez, voilà mon bilan, voilà ce que je peux faire, je vais pas y arriver, tu vois. Mais il n'y a pas de raison que ça profite à tout le monde, faisant du cas par cas.
La situation,
là, on nous dit qu'il y a 25% qui ne pourront pas arriver à rembourser.
La situation que tu décris, déjà, c'est 25% à date.
Oui.
Tu l'as rappelé que fin d'année, ça va être costaud. Entre les mouvements sociaux, l'absence d'énergie et l'inflation, et à mon sens, un recul de la croissance fort, tu rajoutes à ça, ça passera pas. Et ensuite, tu rappelles que ce que tu dis là, ça existe déjà. Celui qui est en difficulté maintenant, là, il peut déjà étaler.
Tu dis, il faut que ce soit négocié
pour
sur 10 ans, mais toi, tu demandes pour tout le monde.
Mais pourquoi? Parce que tu as une règle simple, c'est que l'État est le garant de la concurrence équilibrée. Elle peut pas si t'as ton voisin qui est un peu défaillant, toi qui as bossé pendant le confinement, t'as fait du click and collect, t'as fait des choses, t'as maintenu, t'as sorti des salariés du chômage partiel, tu les as payés. Moi, j'ai perdu de l'argent en faisant du click and collect, je le rappelle. J'ai sorti des gens du chômage partiel, on les a payés, donc c'est pas l'État qui les a payés, c'est nous. Pour être deux tiers de mon fonds de solidarité, il est parti pour payer du click and collect. Donc l'État doit être le garant de la libre concurrence et tu ne peux pas déséquilibrer à ce point. Bien. Et ça, il va se retrouver vers un conflit où il va favoriser celui qui, au fond, s'est un peu tourné les pouces. Il va l'étaler sur 10 ans et il va obérer la capacité, et c'est la vie, naturelle à celui qui a fait des efforts, celui qui réajuste, de pouvoir s'agrandir. Donc la liberté de la concurrence, elle doit être respectée et l'État en est le garant.
Donc il faut que ce soit pour tout le monde aujourd'hui.
Et tout le monde.
On étale sur 10 ans. Celui
qui a des difficultés, que ce soit sur 4 ans ou sur 10 ans, il aura les mêmes. Donc c'est là où tu décris, pour certains, c'est là où tu donnes un déséquilibre concurrentiel. C'est que tu vas aider l'un et pas l'autre. Non, c'est tout le monde. Tout le monde a 10 ans. Les mêmes règles pour tout le monde. Et puis après, c'est la vie. Il y a des entreprises qui meurent. Il y en a qui se créent et c'est la vie.
Que va-t-il se passer dans la suite des GG, la suite des grandes gueules avec Stéphane Manigold, le restaurateur, avec Bruno Poncet, le cheminot, et Marianne Soubré, l'avocate. Tout à l'heure, à midi moins 25, on reparlera des rodées urbains. Avec qui? Avec la maire de Pontoise, madame Stéphanie Voneuve. Elle sera avec nous, Stéphanie Voneuve, parce que c'est à Pontoise que les deux enfants ont été grièvement blessés. On dit que c'est à Pontoise que très exactement au même endroit ont recommencé les rodées urbains. Et c'est à Pontoise que la maman des deux enfants blessés décide de porter plainte contre l'État pour inaction. Elle viendra nous dire précisément ce qui se passe à Pontoise avec les rodées urbains, ce qu'elle peut mettre en place, elle, et si elle est force de police suffisante. À 11h, un GG Saté Match sur la traque des jets privés, des milliardaires de l'économie, des millionnaires du cinéma, du showbiz, du rock, de ce que vous voulez. C'est un site qui répertorie les trajets de vol en disant « Et regardez, ils ont volé 200 bornes avec leur jet privé, bilan carbone temps. » En fait, on les pointe du doigt en disant « Caprice de star, t'as qu'à prendre le train, tu prends pas un jet, tu pollues la planète. » Alors, est-ce que dénoncer ces trajets, c'est pour la bonne cause ou au contraire, c'est de la stigmatisation des riches? 32-16 pour en parler avec les GG. Et dans un instant, au téléphone avec nous, ce chiffre incroyable. 520 000 démissions par trimestre en France de salariés qui ont fait un bras d'honneur à leur boîte, qui disent « Je m'en vais, je change de projet. » La grande démission, est-ce que c'est la grande désorganisation de l'économie? La grande démission, est-ce que c'est un choix égoïste? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.